écoutez le Poste National sur l'ensemble du réseau radio de la CRTV. Il est 20h. Voici le journal, une présentation de Marie-Chantal Noah.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Questions orales au Sénat. 4 ministres sur le grill cet après-midi pour des éclairages sur la santé, l'éducation, les routes et les transactions financières en ligne. Concours AgriTech Innovation, plein feu sur les lauréats et leurs projets, essentiellement portés sur l'amélioration des productions agro-pastorales à l'aide du numérique. À suivre dans le dossier du 20h, les enjeux de cette manifestation. Invité Adelph Oumarou, lauréat de AgriTech 2024. Sport Guinée Super League, démarrage de la saison le 30 novembre prochain. 12 équipes seront de la partie. Annonce de la vice-présidente de la Fédération Camerounaise de Football, Madame Céline Eko. C'était cet après-midi, face à la presse à Yaoundé. En culture, c'est la saison des festivals. L'identité, l'histoire et la vision des Tikars en vitrine en Gambetikar. Tandis qu'à Pouma demain, les Bassampo Bati lancent leur rencontre Mboklia. Bienvenue au journal. Questions orales au Sénat. 4 membres du gouvernement étaient face aux sénateurs cet après-midi à l'hémicycle du Palais des Congrès de Yaoundé. Au menu, la formation en milieu sanitaire, l'éducation de base, la gestion et la protection du patrimoine routier, ainsi que la problématique de la gestion des transactions financières en ligne au Cameroun. Les travaux étaient coordonnés par l'un des vice-présidents du Sénat, Tabé Tando. Le point avec Julienne Polongono.
Les routes de façon générale et en particulier celles en terre sont très souvent soumises à la circulation des gros engins de transport de marchandises dont les tonnages sont incontrôlés. Pour le sénateur Malumbra, ce trafic intense et incontrôlé crée non seulement une dégradation de la chaussée, mais également celle de l'environnement. Des préoccupations qui ont donné l'occasion au ministre des Travaux publics de présenter la politique de l'État dans le domaine de la gestion du patrimoine routier. Emmanuel Nganou-Djoumessi.
Des opérations spéciales sont conduites à fréquence régulière, à l'effet de sensibiliser les usagers, de constater les atteintes à la protection du patrimoine routier et d'appliquer des sanctions.
S'inspirant des arguments contenus dans une revue des dépenses publiques du Cameroun, publiée par la Banque mondiale en mai 2018, le sénateur Pierre Flambon-Gayap a interpellé le ministre de l'Éducation de base sur les dépenses consacrées à l'éducation au Cameroun, professeur Laurent-Serge Tundingwa.
Il ne faut pas trouver au Cameroun des grosses faiblesses. Il faut seulement qu'on travaille, que notre secteur économique devienne plus productif et notre système éducatif s'en portera mieux.
Les préoccupations du sénateur Aminatou Ngangoube portent sur la problématique de la gestion des transactions financières en ligne au Cameroun. Question portée à l'attention du ministre de l'Économie, Alamine Ousmane Mey.
Les structures compétentes au plan opérationnel veillent et veilleront à une exécution satisfaisante de leurs missions importantes dont la complexité va grandissante au regard des rapides changements intervenant dans les domaines technologiques.
Le sénateur Eugène Kouma s'est appesanti sur la formation, la différence entre les diplômes délivrés par le ministère de la Santé et ceux délivrés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Le ministre de la Santé publique s'est voulu rassurant. Manaoud Amalachi.
Ce n'est pas qu'une question de diplôme, c'est une question de formation, c'est qu'une question de pratique. La pratique ne fonde pas le droit, mais que le droit puisse réglementer la pratique.
Les travaux étaient coordonnés par l'un des vice-présidents du Sénat, Tif Tabé Tando.
À l'Assemblée nationale, les membres de la Commission des finances et du budget ont passé au peigne fin ce jeudi le projet de loi portant fiscalité locale. Pour présenter et défendre ce texte pour le compte du gouvernement, le ministre Louis-Paul Moutazé des Finances et son homologue de la décentralisation et du développement local, Georges Elangaobam. Ce projet de loi en examen au Parlement présage une avancée notable dans le processus de la décentralisation au Cameroun. Pauline Deauville-Mendoza-Mbassi.
Près de 6h30, c'est le temps qu'auront pris le ministre des Finances Lupol Motaze et Georges Elanga Obam de la décentralisation et du développement local pour convaincre les membres de la Commission des Finances et du Budget de l'Assemblée nationale de l'importance du projet de loi portant fiscalité locale. Pour y parvenir, les membres du gouvernement ont opté pour une lecture structurée autour de trois axes, à savoir le contexte général ayant conduit à l'élaboration du dit projet de loi, les limites observées dans le dispositif actuel de mobilisation des recettes fiscales des collectivités territoriales décentralisées et les innovations majeures que ce texte introduit pour répondre aux défis et corriger les insuffisances identifiées dans l'application du dispositif en vigueur. En ce qui concerne donc le contexte, le projet de loi en examen au Parlement a été élaboré en droite ligne de l'objectif d'accélération et d'approfondissement du processus de décentralisation voulue par le chef de l'État et avec comme impératif majeur le renforcement de l'autonomie financière des CTD. Pour ce qui est des limites, on peut relever la multiplicité des impôts et taxes locaux avec plus d'une quarantaine de prélèvements, la faiblesse du rendement des impôts communaux, le développement encore embryonnaire de la fiscalité régionale et la liste des limites est bien longue encore. Face donc à ces insuffisances et autres manquements, le projet de loi portant fiscalité locale propose des mesures ambitieuses et même ciblées. Georges Elanga Obam, ministre de la décentralisation et du développement local.
D'une part, qu'il sera mis à leur disposition par l'État des ressources financières en quantité et en qualité plus abondantes. La deuxième chose que je peux mettre en avant, c'est que les services techniques de l'État en charge des questions de fiscalité vont se mettre à la disposition des collectivités territoriales décentralisées pour les aider à asseoir et à recouvrer leurs impôts. Des aménagements vont être apportés.
Toujours en termes d'innovation, dans la loi en examen, on peut citer pêle-mêle la suppression de l'impôt libératoire pour l'institution d'un impôt général synthétique forfaitaire, la dématérialisation des procédures fiscales, la suppression des paiements en espèces, la transformation des centres divisionnaires des impôts en centres de fiscalité locale et des particuliers.
Dysfonctionnement du barrage hydroélectrique de Mekin. Le premier ministre, chef du gouvernement, a instruit l'accélération des procédures pour que tous les problèmes identifiés fassent l'objet d'un traitement adéquat en vue de la remise en activité de cette infrastructure. Joseph John Gouté a présidé ce jeudi une réunion de crise relative à la situation d'urgence créée par les contraintes techniques et opérationnelles auxquelles fait face le projet d'aménagement hydroélectrique de Mekin dans la région du Sud. Laurentine Bokono.
Le barrage hydroélectrique de Mekin est situé sur le fleuve Dja dans l'arrondissement de Bembis, département du Dja et Lobo, région du Sud. L'énergie produite devrait alimenter les arrondissements de la région et quelques autres dans la région du Centre. Hélas, le marché de base, en date du 25 octobre 2010, passé dans le cadre de la coopération Chine-Cameroun, a enregistré quelques réserves lors de sa réception provisoire. Premier bémol, d'une capacité de 15 MW, la centrale n'injecte que 11,2 MW, soit 75% dans le réseau interconnecté Sud, du fait de certaines contraintes recensées sur la ligne où est injectée l'énergie. Deuxième bémol, les problèmes d'exploitation sur la turbine et sur le transformateur qui présentent des faiblesses, lesquelles réduisent la capacité que cette centrale peut produire. Troisième bémol, et non des moindres, la population qui réclame des indemnisations depuis la mise en eau du barrage, dont le réservoir a englouti leurs moyens de subsistance. Et ce n'est pas tout. L'actualité renseigne sur les inondations qui nécessitent des solutions d'urgence. Les explications du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundwe Sumba.
Le premier ministre chef de gouvernement nous a appelés pour traiter de la question du barrage de Mekin qui a connu un incident qui a ennoyé ses principales machines de production. Le barrage est donc en arrêt et le but de cette réunion était de mettre mettre en place un mécanisme pour une réhabilitation urgente de ce barrage pour que la production reprenne. Donc c'est la principale conclusion qui se résume à une instruction forte du Premier ministre pour que tout soit fait pour remettre les turbines alternateurs en production dans les meilleurs délais. Donc on va compresser autant que faire se peut les différents délais pour que cela soit fait dans les meilleurs délais.
On croise les doigts pour que le retour à la normale fasse baisser les délestages dans le sud du Cameroun. Le Premier ministre chef du gouvernement a donné des instructions fermes dans ce sens. Immeuble Étoile, Laurentine Bocono, CRTV.
La situation économique du Cameroun passée au pain fin au Palais de l'Unité, c'était au cours des échanges entre le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République et le directeur Afrique du Fonds monétaire international. Ferdinand Gongo et son hôte ont parlé des réformes en cours dans le pays ainsi que de l'appui que le FMI propose au Cameroun. Dieudonné Ongba.
Ferdinand Gongo et Abebe Aimero Selassie n'ont pas fait dans la politique de l'autruche ni dans la langue de bois. Au cours de l'audience que le haut fonctionnaire du FMI lui-même qualifie de belle rencontre, les deux personnalités ont parlé des défis auxquels le Cameroun fait actuellement face et comment il entend les relever. Défis essentiellement d'ordre exogène.
Le Cameroun, comme d'autres pays en voie de développement en Afrique, est d'ailleurs fait face à beaucoup de défis et à des chocs externes tels que la pandémie du Covid-19, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui ont augmenté la pression sur les coûts des produits de première nécessité. La récession financière et beaucoup d'autres crises sont autant les phénomènes auxquels ces pays ont dû faire face. J'ai eu une très bonne réunion avec le secrétaire général de la présidente de la République du Cameroun. Ma visite consistait à avoir un aperçu des récentes évolutions au Cameroun. Comment est-ce que le Cameroun apprécie les défis actuels sur le plan national et même au-delà, et comment est-ce que le gouvernement travaille pour trouver des solutions à ces défis?
Responding to these challenges.
Face à ces challenges, le gouvernement de la République a entrepris de nombreuses réformes. Le Fonds monétaire international réaffirme sa disponibilité à continuer d'appuyer le Cameroun aussi bien dans l'implémentation des programmes en cours que dans ceux à venir.
Depuis bientôt 3 ans, nous avons un programme de financement avec le Cameroun et chaque 6 mois, nous faisons une évaluation. Nous en sommes à la 7e et tout montre la détermination du gouvernement camerounais à continuer à travailler dans la mise en œuvre effective de ce programme. Nous avons des programmes de financement et il était question d'apprécier la mise en œuvre de ceci. Donc nous avons parlé de la 7e évaluation de ce programme de financement qui évolue dans de bonnes conditions et nous pensons qu'il va bien s'achever. Nous avons aussi parlé de la sous-région de manière globale, particulièrement des défis financiers et d'autres pressions émergentes et comment travailler ensemble pour trouver des solutions durables pour remédier à ces questions.
Pendant de longues minutes, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, et le directeur Afrique du FMI, Abebe Aimero Selassie, tout en passant en revue les programmes passés ou en cours, n'ont pas manqué d'envisager l'avenir. Les priorités consistent ici à soutenir la croissance ainsi que la transparence dans les finances publiques.
The program implementation has really been very good.
Jusqu'ici, tout se passe bien. On peut l'observer au niveau des réformes sur la transparence financière. Les indicateurs macroéconomiques sont positifs. Et notre institution est disposée à continuer à travailler avec le gouvernement camerounais.
Le directeur Afrique du FMI boucle ainsi son voyage en terre camerounaise. Voyage qui lui a permis de travailler avec les hautes autorités camerounaises chargées des questions économiques.
Vous êtes sur le poste national de la CRTV. Le dossier du 20h questionne l'optimisation des productions agro-pastorales à l'aide du numérique. Le concours AgriTech Innovation Challenge a présenté la semaine dernière à Yaoundé ses lauréats. 10 startups ont séduit le jury de la compétition qui prime les meilleurs porteurs de projets innovants dans l'agriculture, l'élevage, la pêche et les changements climatiques. Le concept mis sur pied par le projet d'accélération de la transformation numérique du Cameroun a sélectionné pendant 3 mois les solutions digitales qui vont être financées par la Banque mondiale. Gilles Kroonboy Tundi.
The best and the most promising solution is eFarm.cm, promoter Pamela Ban,
l'éclat de sa surprise rivalise avec celui de son trophée. La start-up de Pamela Bang décroche le premier prix de l'AgriTech Innovation Challenge. Elle propose un marché web et mobile pour les produits agropastoraux.
Je n'attendais pas le premier prix, franchement.
J'étais surpris.
Sur notre site web, les agriculteurs ont l'habilité pour vendre leurs produits et décider sur le prix.
Lui aussi a vu son rêve germer au cœur du podium. Achille Focam rafle le 5e prix avec sa start-up Ferravi.
C'est une application de gestion de fermes. Les différents entrepreneurs, parfois ils sont soumis à certains vols, au manque d'informations, ce qui pousse certains à se décourager. Nous avons créé une solution qui va les permettre de mieux gérer les fermes et augmenter la productivité.
L'originalité, la viabilité commerciale et la pertinence étaient les critères de sélection. Dr Winfred Mfou, coordonnateur du PATNUC.
Des tracteurs intelligents ou des robots qui travaillent sur les champs, ces robots sont capables de connaître là où ils avaient arrêté de semer l'avant-hier, hier, de mesurer la qualité du sol au fur et à mesure qu'ils travaillent.
Le projet d'accélération de la transformation numérique au Cameroun a fait les 10 régions pour dénicher les pépites. 500 000 francs CFA cash pour les 20 finalistes, mais surtout 40 millions de francs CFA maximum à la disposition de chacun des 10 vainqueurs. La transformation du secteur agropastoral mise sur la technologie.
Au terme de la sélection des 10 meilleurs projets locaux, l'accompagnement ne se limite pas qu'au seul aspect financier. La création d'une industrie nationale composée de projets innovants implique un coaching adapté de ces start-up pour plus de rentabilité. C'est du moins l'avis de Mme Minette Libom-Lilikeng, le ministre des Postes et Télécommunications, que nous écoutons au micro de Gilles Cronbon et Tundi.
Nous ne sommes pas là pour sélectionner quelques champions et les abandonner à eux-mêmes. On ne va pas leur remettre des appuis financiers et les abandonner. Nous devons les accompagner pour qu'ils soient des champions parce que nous voulons développer une industrie locale des TIC. Quand nos petits éleveurs vont bénéficier de leurs solutions et que leur production va s'accroître, nous devons accompagner ces jeunes pour améliorer leur business plan au niveau même des financements, au niveau des partenariats. Ils vont signer une convention avec le PATNUC. Donc c'est dire que l'avion a décollé. Attendez-vous à voir les résultats.
Madame Minette Libom-Lilikeng, ministre des Postes et Télécommunications. Depuis quelques années, le numérique apparaît comme un outil indispensable au développement des chaînes de valeur agro-pastorales. La panoplie d'innovations qu'il apporte sont autant d'intrants qui peuvent améliorer le rendement des producteurs. Seulement au Cameroun, comme dans la majorité des pays d'Afrique subsaharienne, les opportunités qu'offre le numérique restent sous-exploitées. Et pourtant, vous nous dites, Oswald de Modon, que c'est sur le numérique que repose l'avenir du développement agropastoral.
Il y a eu l'avènement des engrais, des semences et variétés améliorées, des aliments contrôlés, de nouveaux intrants, autant d'initiatives et bien d'autres qui, dès le XXe siècle, apportaient déjà un appui non négligeable au développement du secteur agropastoral, avec des résultats qui ont tout de suite boosté les rendements, tant sur le plan agricole que pastoral. À l'ère du tout numérique, le développement de l'agriculture et de l'élevage n'aurait su échapper à la mouvance. Et dans le secteur, les acteurs du digital ne se sont pas croisés les doigts. Ils ont labouré et bêché pour dénicher des applications et autres astuces à même d'alléger et surtout de faciliter le travail des agriculteurs. Les technologies numériques sont désormais au service de l'agriculture. Entre les applications qui permettent d'évaluer la quantité des intrants et celles dédiées aux conditions météorologiques, les plateformes de commerce électronique, les paiements électroniques, rien n'est de trop pour les seigneurs de la terre. L'introduction du numérique apporte des solutions palpables, non seulement pour booster la production, mais aussi pour gagner du temps et économiser des forces. Et dans les deux cas, l'économie financière est non négligeable. À côté de tout cela, il y a un accès facilité vers les marchés, une meilleure gestion des approvisionnements et des stocks au-delà de la disparition de certains goulots d'étranglement qui plombent encore jusqu'ici le rendement des agriculteurs et des éleveurs. Malgré tous ces avantages, force est de constater que le secteur agro-pastoral est l'un des moins numérisés de l'économie à l'échelle mondiale et pourtant, les bénéfices de la mise à jour ne sont plus à démontrer. Il va falloir définitivement faire le pas. L'avenir de l'agriculture et de l'élevage repose bien sûr sur le numérique.
Dans le fauteuil de l'invité du soir, Adelphe Oumarou, l'un des lauréats de AgriTech 2024. Son projet lui a valu une place parmi les 10 candidats retenus par le jury. Son invention devrait permettre aux agriculteurs de choisir des semences adaptées à la qualité des sols cultivables. Il répond par téléphone depuis Garoua aux questions de Sardi Lawan.
Adelphe Oumarou, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Sardi.
Vous êtes l'un des lauréats de AgriTech 2024. Présentez-nous votre produit.
un kit électronique d'analyse et de contrôle du taux de fertilisation du sol en milieu agricole. En réalité, il permet à l'agriculteur, via son smartphone et une application, de savoir exactement quel type de culture s'émet, dans quel type de sol, quand et comment s'y prendre pour avoir un bon rendement. En fait, ce kit vient accompagner l'agriculteur dans la détermination de la fertilité de son sol. Avec son smartphone, il pourra donc dialoguer avec le kit pour avoir des résultats beaucoup plus élargis sur les aspects tels que le taux de nutriments, le pH, ainsi que d'autres paramètres importants pour les cultures. Il peut donc dialoguer et poser des questions au kit, du genre quelles sont les cultures les mieux adaptées à ce sol. Et le kit va donc lui proposer une liste de cultures qui peuvent donc aller dans ce sol sans qu'il ait recours à l'engrais chimique ou organique. Lorsqu'il a ses résultats, il peut demander également au kit de lui proposer des solutions à apporter ou alors des recommandations à apporter dans ce sol s'il aimerait faire une culture qui ne figure pas sur la liste proposée. Là, il évalue donc en termes d'engrais qu'il faut apporter en kilogrammes par hectare ainsi que les recommandations du genre comment améliorer le pH pour avoir un bon rendement de sa culture.
On se rend quand même compte que c'est des choses très techniques qui se greffent au numérique. Est-ce qu'il s'adresse à tous les paysans en fait?
On a pensé à faciliter le travail de l'agriculteur. En réalité, c'est vrai, le kit utilise une application, mais peut fonctionner hors réseau via juste le module Bluetooth du smartphone. Ça veut dire qu'un agriculteur qui a juste un smartphone peut utiliser ce kit sans avoir recours au réseau Internet qui pourrait de temps en temps ne pas être disponible dans la zone où il se trouve. Donc, son smartphone, le Bluetooth et le kit, l'agriculteur peut utiliser simplement l'appareil et améliorer son rendement.
Qu'est-ce que le soutien de l'État va vous apporter dans le développement de cette technologie?
Cette solution a besoin d'être un peu améliorée. Donc, sur le plan technique, nous allons y travailler. Nous allons également profiter de cette offre pour produire suffisamment ces kits. Parce que ce kit est un produit de fabrication locale. C'est nous-mêmes qui l'avons monté. Donc, nous avons besoin de monter beaucoup plus de kits pour être disponibles dans plusieurs localités. Nous n'arrivons pas à satisfaire la demande parce que nous n'avons pas assez de kits. Donc, cette subvention de l'État nous permet de fabriquer suffisamment de kits. Nous allons améliorer notre stratégie marketing. Les agriculteurs ne sont pas tous disponibles dans les réseaux sociaux. Nous avons donc voulu appliquer le marketing de proximité, c'est-à-dire en allant directement dans les localités profondes pour proposer cette solution aux agriculteurs.
Adelphe Oumarou, merci d'avoir parlé à la CRTV.
Dans la suite du journal, le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari, célèbre les produits made in Cameroun et invite les acteurs privés du secteur à s'engager dans leur promotion. Le ministre d'État a lancé cet appel ce jeudi lors de l'ouverture de la Foire internationale du tourisme qui court jusqu'au 23 novembre prochain à Limbé, dans la région du Sud-Ouest. Linda Ngali.
I now declare open the fourth edition of the Cameroon International Tourism Trade Fair.
C'est parti pour la quatrième édition de la Foire internationale du tourisme au Cameroun, au Jardin botanique de Limbé. Le site historique du tourisme ouvre ses portes pour accueillir des centaines de visiteurs. Cette édition vise également la création d'emplois. Agatha Iyok, promotrice.
Pour montrer aux gens d'ailleurs que Cameroun est très bien. Et c'est un pays que tout le monde doit visiter. Quand le touriste vient ici au Cameroun, c'est pour le développement.
Le secteur du tourisme et du voyage a enregistré une croissance de 5,6% et contribue à la hauteur de 8,5% du PIB du continent africain. D'où la nécessité de valoriser l'exposition des produits essentiellement made in Cameroun, selon le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari.
Pas la diversité non seulement culturelle, mais même gastronomique, ce qui va en droite ligne avec les efforts du ministère aujourd'hui pour promouvoir la gastronomie camerounaise. Je crois que tous ceux qui auront participé à cette quatrième édition de la foire pourront encourager avec nous.
Au rendez-vous de cette quatrième édition qui se tient sur 3 jours, des expositions ventes, prestations théâtrales, réseautage, workshop et une excursion au lac de Nastigal, ainsi que le lancement du mouvement Women and Youth in Tourism pour promouvoir le tourisme camerounais, véritable Afrique en miniature. Linda Ngali, CRTV.
La directrice de l'Agence française de développement au Cameroun, Virginie Dago, dans les locaux du centre de formation au métier de Banjoun. C'était pour échanger avec le comité de gestion sur les stratégies d'opérationnalisation et de fonctionnement du centre, programme inscrit dans le cadre des projets C2D formation professionnelle impulsé par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Marc Aurel Yonga de CRTV West.
Deux étapes majeures ont marqué la visite de travail de Virginie Dago, directrice de l'Agence française de développement, AFD, au Cameroun. En premier lieu, une visite guidée des locaux destinés à accueillir le centre de formation au métier de Banjoun, suivie d'une séance de travail avec les responsables du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et toutes les parties prenantes impliquées. Virginie Dago, directrice AFD Cameroun.
L'AFD finance et accompagne le ministère de la formation professionnelle dans le cadre d'un programme de construction de centres de formation professionnelle. Celui de Banjoun est le plus avancé. Les infrastructures sont prêtes, les équipements vont arriver dans les prochaines semaines et l'équipe de gestion est en train d'être mise en place.
Cette visite a été perçue comme une grande opportunité pour le comité de gestion qui voit en cette initiative la possibilité de concrétiser le projet envisagé. Honorable Albert Quinche, président du comité de gestion.
Je salue à sa juste mesure la mission de l'AFD qui est venue toucher du doigt les réalités de notre centre.
La mise en œuvre de ce projet offrira à de nombreux jeunes la possibilité de bénéficier à court terme d'une formation de qualité en maintenance et petite mécanique en transformation des produits carnés et agricoles. Banjoun, Marc Aurel Yonga, CRTV.
Les institutions bancaires doivent ouvrir des guichets spécialisés pour l'accès au crédit des femmes entrepreneurs. Exhortation ce jour du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, Achille Basilikin III, lors du coup d'envoi des manifestations de la journée de l'entrepreneuriat féminin. Le ministre Achille Basilikin III au micro de Landrine Tanga.
Une bonne partie des activités dans le secteur informel sont conduites par des femmes entrepreneurs. Et donc, en accélérant la formalisation, mais surtout en disséminant les instruments permettant aux femmes entrepreneurs d'accéder au crédit, mais aussi de se pencher sur les préoccupations spécifiques qui sont les leurs, nous pourrions renforcer leur inclusion financière. J'ai saisi cette opportunité pour lancer un appel aux institutions de crédit qui doivent suivre l'exemple de certaines autres qui ont ouvert des guichets spécialisés pour l'accès au crédit des femmes entrepreneurs. Il faut des solutions adaptées aux préoccupations des femmes entrepreneurs qui aujourd'hui sont le moteur de l'activité économique, mais qui pour la plupart parfois restent dans le circuit informel. Et donc c'est toutes ces activités que nous devons démultiplier. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'avec cette formidable initiative, avec le concours de Mme Bertha Yenwo, nous allons, en ce qui concerne les pouvoirs publics, continuer d'élargir le cercle des femmes entrepreneurs qui sont intégrées dans le circuit informel.
Achille Basilikin III, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat. En santé, fin ce jour à Yaoundé du premier forum sur les soins de santé primaire et l'institutionnalisation de la santé communautaire. Il en ressort que chaque maillon de la chaîne doit jouer son rôle afin d'amener les collectivités territoriales décentralisées à intégrer la santé communautaire dans leur plan de développement. Les hommes et femmes de médias édifiés sur la question de la prématurité. Ils prennent part à Yaoundé à une réunion organisée par le ministère de la Santé publique. Il s'agit de susciter un intérêt et une implication des acteurs pour une meilleure prise en compte des problèmes de la prématurité. Rachid Anjab.
La prématurité est un problème de santé publique au Cameroun. 3 nouveaux-nés sur 10 décèdent des suites de complications à la naissance. Pour réduire le taux de mortalité, les spécialistes de la santé recommandent une meilleure prise en charge de la mère et de l'enfant. La piqûre de rappel a été administrée aux hommes et femmes de médias ce jeudi à Yaoundé. Félicité Ngefak, pédiatre.
Quand un nouveau-né est prématuré, il est exposé à beaucoup de complications, parfois mortelles. Et à cause de ces complications, les nouveaux-nés prématurés sont à risque de décéder plus que ceux qui sont nés à terme. La mortalité néonatale contribue pour près de 40 à 50% de la mortalité chez l'enfant âgé de moins de 5 ans en général.
Cela inclut également un suivi de la grossesse, des soins appropriés pour des bébés prématurés et de faible poids.
Le suivi se passe en milieu hospitalier, dans un service qui est apte à accueillir ceux qui sont nés avant le terme. Et pour cela, le gouvernement a formé des spécialistes, des pédiatres, des néonatologistes qui sont aptes à prendre en charge ces prématurés, allant de l'extrême prématurité à la prématurité légère.
La séance de travail avec les hommes et femmes de médias rentre dans le cadre des activités marquant la célébration de la Journée mondiale de la prématurité, placée sous le thème « Les meilleurs soins accessibles à tous et partout ».
En sport, Guinness Super League, la saison 5 démarre le 30 novembre prochain. C'est la principale annonce ce jeudi lors de la conférence de presse au chef de la FECAFOOT de la vice-présidente Céline Eco. Le partenaire continuera à accompagner le championnat de football féminin et 12 équipes vont prendre part à ce tournoi. Didier Marius et Tundi.
La Guinness Super League saison 5 présente un nouveau visage, d'abord un nouveau logo du partenaire. Le logo challenge a été dévoilé. Enoch Fabrice Joël est le gagnant.
Le logo, je l'ai voulu simple, élégant et original. Ce logo rassemble à la fois le symbole de Guinness et l'esprit qui est derrière, la coupe qui est symbole de la compétition.
Les responsables des 12 clubs reçoivent chacun 2 jeux de maillot, 25 sacs de voyage, 25 sacs à dos, 20 ballons. Moment de satisfaction. Christian Onana, président des clubs football filles d'Essa.
Nous sommes en parfaite harmonie parce que chez nous, au football féminin, nous avons décidé de ne pas faire des bruits. Nos problèmes se gèrent en interne parce que le football féminin, c'est une religion.
Madeleine Nama, sentiment de fierté. Nous ne pouvons que dire merci à Guinness qui nous accompagne depuis 5 années.
Dans une formule unique en aller-retour, le kick-off aura lieu le 30 novembre prochain. Céline Eco, vice-présidente de la Fédération camerounaise de football, par ailleurs, présidente de la Ligue de football féminin.
Nous avons 12 clubs. Nous ne pouvons jouer d'ailleurs comme certains voulaient en 2 poules, mais nous faisons une poule unique pour que toutes les équipes aient assez de matchs en jambes.
Et d'autres innovations sont également annoncées.
Culture, la 6e édition du festival Mboklia s'ouvre demain vendredi à Pouma dans la Sanaga maritime. Le rassemblement traditionnel socio-culturel du peuple Bassampo-Bati s'articulera autour de la thématique Mbimba, l'énergie fondamentale du peuple Bassa. Solidaires d'un même patrimoine, les Bassampo-Bati du Cameroun font de ce festival une rencontre fraternelle où l'on apprend à se connaître et au cours de laquelle les leviers de la tradition sont mis en ensemble. Sur les attentes de cette édition 2024, écoutons le président général de l'association Mboklia, Mbombok Malet Manjami, est au micro de Nathalie Mvogo.
La première, c'est que nous apprenions à nous connaître, à évoluer ensemble, que nous nous rendions compte que nous sommes solidaires d'un même patrimoine et que nous inventions là les moyens de le valoriser ensemble, parce que cette valorisation va permettre à chacun de s'épanouir en tant qu'individuel et nous permettre aussi de mettre ensemble les leviers du développement. Mboklia, c'est pas la tradition. Mboklia, c'est la société telle qu'elle évolue. Mais Mboklia travaille avec 6 principaux piliers. Le Mbok, les familles, les élites, forcément, les dignitaires du culte et tout ce qui se rapporte au développement, mais la tradition aussi de façon dynamique.
Cap sur Ngambé-Tikar, dans le département du Mbam-Ekim, pour le festival culturel Yan du peuple Tikar. Cette 2e édition débutée ce jour vise à dévoiler l'identité de l'homme Tikar, son histoire et sa vision. Victor Lema.
Les notes du site du festival attirent du monde parti des 4 coins de l'arrondissement de Ngambé-Tikar, bien plus des 3 régions frontalières, le centre, l'ouest et la Damawa. Sur cette esplanade, la culture Tikar se dévoile à son public. L'artisanat, la mode vestimentaire ou les danses patrimoniales exposent l'héritage culturel de ce peuple. Roger Niendi, président de l'association pour le développement des Tikar.
Le plus important, c'est de se faire connaître sur l'échiquier national. Nous avons un peu marre qu'on nous demande souvent les Tikar, vous vous trouvez où?
À travers cette rencontre, le peuple Tikar tisse son unité dans la diversité. Tous se reconnaissent en un seul arbre généalogique. Mouté Abidias Kamir, fils Tikar.
son petit car. Nous sommes venus d'ici avec un charret qu'on appelle les Bamoun et puis les Ngonso. C'est une très grande famille et c'est une fraternité que nous avons recréée avec le père Mondjoya, Mbinglo II.
Les autorités coutumières présentes ont de façon collégiale invité ce peuple à revendiquer où qu'il se trouve son identité. Sati Karité. Les activités vont se poursuivre avec des conférences et des expositions pour la journée de samedi. Ngambetika, Victor Luma, CRTV.
À retenir de ce journal, questions orales au Sénat. Quatre ministres sur le grill cet après-midi pour des éclairages sur la santé, l'éducation, les routes et les transactions financières en ligne. 20h34, fin de ce journal. Technique Chrétien Foucault, réalisation Prisca Ndjeng Mongolo et Jean-Philippe Ebela, stagiaire, rédacteur en chef Simon Lyonga. Je suis Marie-Chantal Noah. Merci, excellente soirée avec la CRTV.